À voix nue. Toute cette semaine, de lundi à vendredi, Yorgos Archimandritis rencontre Gilles Jacob. Ce soir, Lumière sur Cannes.
Gilles Jacob, vous avez dirigé le Festival de Cannes pendant presque 40 ans. Vous êtes devenu son premier citoyen, son âme. Vous avez vécu les réunions du jury, les palmarès, les fêtes, les surprises, les polémiques, les excentricités. Dans quel état d'esprit le chef du festival arrive-t-il à Cannes pour le grand spectacle ?
Il arrive dans l'état d'esprit d'humilité, de telle manière qu'il attend de voir si ses propositions sont acceptées, alors acceptées par les différents publics, c'est toute la complication. Puisqu'en réalité, vous avez à Cannes, évidemment, la presse, c'est un festival de journalistes, de critiques, Cannes, mais aussi de toute une population, soit faite de grands professionnels du cinéma, qui viennent du monde entier pour assister au marché du film, mais qui veulent quand même participer à la fête artistique et culturelle. Vous avez de tous les endroits du monde, des directeurs de festivals, des cinémathèques, des institutionnels. Vous avez les gens qui descendent de Paris parce que c'est le lieu où il faut être, que ce soit des officiels, que ce soit même des politiques, parce que du moment qu'il y a le projecteur sur un endroit donné, bien sûr, les papillons viennent autour de la lampe. Et en réalité, tous ces publics-là, et puis la population locale, qui, contrairement à ce qu'on dit, sont présents au festival pour 8% des places qui sont allouées par accord entre la ville qui fait beaucoup pour le festival, la ville de Cannes, il faut le dire, soit par la mise à disposition du palais en ordre de marche et des équipes, soit par même une dotation financière. Par conséquent, cette allocation montre qu'il y a dans la salle, on dit toujours Cannes, c'est les professionnels, c'est pas le grand public. Si, il y a du public, qui est le public de Cannes, qui du reste adore son festival et qui a été éduqué à l'art cinématographique grâce au festival. Et donc l'ensemble de ces publics n'a pas forcément les mêmes opinions. Les journalistes sont évidemment très pointus, ils veulent voir l'écriture cinématographique se développer, les nouveaux films, quels vont être les nouveaux créateurs. D'autres personnes préfèrent des films plus accessibles, plus grand public, pas forcément commerciaux. On admet la qualité, puisqu'à Cannes, c'est la crème de la crème, mais il y a des nuances. Et donc, il s'agit de réconcilier tout ce monde-là, ce qui est impossible, et de faire en sorte que tout se passe bien. Alors voilà dans quel état d'esprit est le directeur du festival. Il est angoissé parce que n'importe quoi peut se passer. J'ai dit qu'il y avait le projecteur, mais il pourrait se passer surtout dans les jours contemporains n'importe quelle action inamicale, voire hostile, voire guerrière. Et par conséquent, la peur aussi de ne pas respecter l'horaire. Parce que quand on monte les marches du Festival de Cannes, ça prend 3 quarts d'heure. Donc il y a 6 séances par jour pour remplir, désemplir, faire passer la sécurité, le déminage, tout ce qui implique la bonne mise en ordre de la salle et des programmes, ça prend du temps. Donc tout retard retarde aussi les séances suivantes, c'est comme chez le dentiste, hein. Si le premier client est en retard, tous les autres s'accumulent. Alors il y a 2 solutions, soit de ne pas être en retard, soit de rattraper le retard. C'est pas commode. Par conséquent, le directeur du festival, il a l'œil sur sa montre en permanence. Il y a une photo célèbre de moi où je suis sur les marches en train de regarder furtivement ma montre et de me dire « Ouh là là, qu'est-ce qui se passe ?»
Est-ce que vous vous sentez comme le metteur en scène d'une œuvre ?
Pas là. Je me sens pas le metteur en scène, je me sens le pauvre organisateur qui, lui et ses équipes nombreuses, ont travaillé pendant toute une année pour 12 jours de mise en lumière. Si quelque chose se passe, comme en mai 68, quand le festival s'est arrêté en plein milieu, le travail de toute une année est jeté à la rivière. Par conséquent, on est à la fois, on feint d'être organisateur, selon la formule de Cocteau, puisque les choses nous échappent, feignons d'en être les organisateurs. C'est exactement ça.
Vous parlez de mise en lumière, vous parlez de la montée des marches. Il y a tout un rituel qui est propre à Cannes. Quelles sont les composantes de ce rituel ?
Alors, historiquement, il y a eu 2 escaliers. L'escalier de l'ancien palais, qui ne faisait que quelques marches, et on était tout de suite dans la salle. Ça avait un gros inconvénient, c'est que les photographes qui étaient à l'époque peu nombreux, il y avait que quelques centaines, voire quelques milliers de personnes, mais pas plus de 3000 dans les débuts du festival. Et par conséquent, les photographes se mettaient en travers, les vedettes et les artistes et les metteurs en scène ne pouvaient plus monter. Il y avait une bousculade dans les marches. On peut tomber en arrière, donc ça pouvait être dramatique. Et il y a eu des scènes de foule, de bousculade, où il y avait bien quelques agents, quelques gendarmes qui étaient censés faire la haie d'honneur, mais qui regardaient surtout les vedettes plutôt que de faire le service d'ordre. Et donc, il y a eu des images célèbres où Brigitte Bardot a été bousculée, où une actrice américaine a été aussi, elle était en larmes parce que ses cheveux avaient été défaits. Enfin, ça, c'est l'histoire du Festival de Cannes. Quand le Nouveau Palais est arrivé en 1983, je me suis dit, là, c'est considérable. Vous avez un parvis, il n'y avait pas du tout ça. Dans l'ancien palais, il y avait juste le trottoir. On allait du Carlton au palais, ça faisait 80 mètres, à pied, tranquillement. Là, il faut toute une arrivée, avec des couloirs de circulation, avec des numéros, avec des cartes. Enfin, c'est toute une affaire, puisque maintenant, il y a 40 000 personnes qui se pressent, et 2400 personnes dans la salle, notamment deux fois aux séances du soir, l'une à 19h30, l'autre à 22h30, qui sont remplies aisément. Par conséquent, la première année, ça s'est pas très bien passé, parce que le public était là, tranquillement, en plein milieu du parvis, et que les gens devaient faire du slalom entre les gens du public, qui étaient très contents, mais ça ne faisait pas une arrivée solennelle. Donc, je me suis dit comment faire. J'ai consulté Yves Morouzi, qui était à ce moment-là le présentateur de la télévision sur la première chaîne, et qui était un homme de spectacle. C'était lui qui avait mis une fesse sur le bureau de Mitterrand pour l'interviewer, qui montait sur un cuirassé pour amener la télévision. Enfin, c'était quelqu'un qui n'avait pas peur de faire des grandes choses. Et donc on s'est dit, il faut faire de chaque côté des barrières où les journalistes, les photographes principalement et les télévisions, quand elles sont arrivées, seraient cantonnées, mais où ils pourraient travailler à leur aise. Et au milieu arriveraient les artistes et on terminerait par l'équipe du film du jour de telle manière que ce serait glorieux. Bien, l'idée étant toujours de servir le cinéma, de servir les artistes et de faire en sorte que leur image parte dans le monde entier le plus vite possible. Puis ensuite, on a amélioré ça, on a fait une musique solennelle pour la montée des marches, on a fait une mise en scène de la montée des marches, on a mis un tapis, d'abord simplement dans l'escalier, puis ensuite un tapis rouge, bien sûr, qui est allé jusqu'à la rue, et tout d'un coup, c'est devenu un spectacle, c'est devenu l'ascension des marches, alors que dans d'autres festivals, aux Oscars notamment, c'est au niveau du sol. On serpente et on entre dans la salle. Là, pas du tout. Il y a une montée et cette montée, elle est vers quelque chose. Alors, on peut dire que c'est comparable au rite catholique de l'ascension, de la montée vers le ciel, le paradis, Dieu, que sais-je. Là, tout bêtement, c'est la montée vers la Palme d'Or. Mais quand même, il y a une émotion pour les équipes de films qui ont travaillé dur pour constituer un film pendant 2 ans. Ils arrivent là, ils représentent leur équipe, eux-mêmes, leur pays, donc ils sont fiers, ils veulent monter dignement, et cet accompagnement général de cette espèce de petite mise en scène dont je vous parle facilite les choses. Et c'était Lars von Trier, le cinéaste danois, qui raconte toujours que la première fois qu'il est venu à Cannes, il avait endossé le smoking de Dreyer. Dreyer, c'est le grand ancien, le grand créateur danois de toute l'histoire du cinéma. Et il avait l'impression que le smoking de Dreyer s'était emparé de lui et le poussait le long des marches. Donc il y avait le corps de Dreyer et le petit Lars von Trier, les petites jambes qui montaient les marches. C'est une belle image et elle résume bien ce dont nous sommes en train de parler.
Cette ascension, ça pourrait être aussi l'ascension vers les hauteurs du mont Olympe.
Oui.
Parce que les stars sont comme des dieux.
Voilà. On peut imaginer toutes les paraboles, toutes les images, toutes les symboliques, mais elles sont toujours justement dans le sens davantage de reconnaissance, davantage d'honneur, davantage d'amour finalement. Ces gens-là, on les aime. On les aime parce qu'on se... on s'incarne en eux, même involontairement. On devient tout d'un coup Grace Kelly ou Alfred Hitchcock, si on a un certain embonpoint. Et on est content de les accompagner, de les voir d'abord. Le public est très content qu'on amène le monde entier, le monde artistique du monde entier, dans une petite ville qui est un petit port de pêche au départ, Cannes.
Et maintenant, c'est devenu un lieu d'adoration, en fait.
Voilà, un lieu d'adoration. Malheureusement, pas forcément d'adoration du directeur du festival, qui est quelquefois traîné dans la boue, notamment par les critiques. Alors pourquoi ? Parce que tout critique est un directeur de festival qui s'ignore. Alors, il est directeur de festival parce qu'en réalité, il pourrait tout à fait faire le travail, tout au moins le choix des films, puisque lui-même passe son temps à faire ça. Lui écrit sur les films, le directeur n'écrit pas, mais il les choisit. Mais c'est un travail très voisin. En revanche, toute l'organisation, la direction des équipes, les finances, tous les travaux qui sont imputés aussi au directeur du festival, ça, il ne pourrait les faire que s'il est préparé à ça, s'il est formé. Et ça, c'est une autre histoire. Mais peu importe, le directeur est donc plus ou moins vilipendé, puis quelquefois à bon droit, si vous vous trompez, si vous vous choisissez mal, si vous mettez un film qui va être trop faible et qui va être largement critiqué, c'est l'intérêt de personne, et notamment pas l'intérêt du film et de l'équipe du film, parce que ça va mal se passer. Ensuite, dans la presse, ça va mal se passer. C'est la raison pour laquelle, très souvent, les gens ne sortent pas en même temps que Cannes, mais attendent la rentrée en automne pour sortir leur film, parce qu'ils ont du temps pour le retravailler, pour retravailler la presse, pour remontrer le film, etc., pour essayer de sauver, si c'est un désastre, ce qui peut être sauvé. Mais ça, j'ai une vision pessimiste des choses. Ça arrive sur un ou deux films de temps en temps. La majorité des films sont bien reçus. Sinon, il ne faut pas garder le directeur.
On parle des films. Comment la délibération du jury se déroule-t-elle ?
Ah, ça c'est très compliqué. Le jury a travaillé pendant les 15 jours, très bien. Il s'est réuni, il a vu les films, il y a eu une première réunion pour se présenter. Il est cocoté, hein. Ils sont très bien installés, très bien nourris, très bien traités. Chacun a sa voiture, enfin vous pensez qu'on est aux petits soins pour eux. Ça ne change rien si un type est mécontent et dit « votre festival est nul cette année », comme ça m'est arrivé d'avoir des gens, je ne citerai pas de nom, mais des gens un peu coriaces, mécontents, on ne sait pas pourquoi. J'avais cité un jour Patrice Chéreau. C'est vrai que Patrice Chéreau n'était pas emballé, mais il y a eu d'autres cas de figure. Et bon, il faut faire avec. Mais en réalité, ce sont des gens qui ont également l'amour du cinéma. Ils ont été choisis dans différentes professions, de différentes générations, différents sexes, différents pays, et ils travaillent. Ils voient deux films par jour. Alors quelquefois, quand on demande à un jury américain, un artiste américain, une vedette, si elle veut faire partie du jury, les stars hollywoodiennes, ils disent « Mais qu'est-ce qu'il faudrait faire ?»« Ben, il faudrait voir deux films par jour. » « Ah, quand même, ça a l'air d'être un travail, un effort, alors que les cinéphiles du monde entier se jetteraient au feu pour être jurés à Cannes. » Donc, si on n'aime pas ça, il ne faut pas le faire. Mais en réalité, la plupart des gens aiment ça parce que c'est un honneur aussi. C'est pas seulement... Mais on prend des gens du cinéma parce qu'ils connaissent la question. Très bien. Donc, une fois qu'ils ont vu les films, ils se réunissent le dernier jour. Alors, faut pas qu'ils aient fait non plus la noce toutes les nuits précédentes, parce qu'à Cannes, il y a beaucoup de fêtes. Le soir, les étrangers s'habillent, se mettent en robe du soir, en smoking, ça fait partie du cérémonial. Alors, on y dit toujours, c'est démodé, c'est vieux jeu, vous n'êtes pas démocratique, vous êtes une espèce d'aristocratie. Mais en réalité, c'est les étrangers qui nous demandent ça, parce qu'ils viennent du monde entier, ils travaillent dur toute la journée, notamment au marché du film, et ils ont envie, le soir, de sortir, d'aller au restaurant, entre amis, de discuter encore affaires au besoin, voire plus si affinité, d'aller dans les fêtes qui n'en finissent pas. Et puis, avant ça, ils ont envie de voir un film. C'est pour ça que la séance de 19h30 est tellement courue, parce que celle de 22h30 est un peu moins courue, parce qu'à ce moment-là, on a envie d'aller dîner. Donc, il s'agit d'équilibrer tout ça. Mais je reviens au jury proprement dit. Donc, s'ils n'ont pas fait la fête, ils arrivent là. Alors, ils ont été très longtemps dans une villa dont je peux parler maintenant, puisqu'elle est située dans les Hauts de Cannes, qui est la Villa Domergue. La Villa Domergue, c'est un legs qui a été fait par le peintre Domergue, qui a fait des très jolies peintures représentant la Parisienne ou plein d'autres choses, des choses très à la mode, mais très enlevées, très gaies, très, très lumineuses et colorées. Et donc, il a construit cette villa. Il l'a du reste donné à la ville. En compensation, il a demandé à être enterré là. Et il y a le sarcophage de lui et de son épouse, qui était une sculptrice, et qui sont là. Et donc, on arrive dans cette villa ultra protégée par la police, parce qu'il faut éviter que le secret ne soit pas sauvegardé. Très longtemps, le palmarès était annoncé à 13h, pour que les radios et les télévisions puissent en rendre compte posément. Et puis, quand on a fait un accord avec Canal+, mais déjà un peu avant, on a décidé de donner la nouvelle au journal télévisé du soir. Donc, c'était vers 19h, 20h, en direct et inédit, en secret absolu. Et puis, un beau jour, un petit malin du jury a jeté un petit papier par la fenêtre, s'est tombé sur un journaliste, le journaliste l'a communiqué à ses collègues, et le palmarès était annoncé avant que le festival ne l'ait annoncé. Ce qui était dramatique, parce qu'à ce moment-là, les télévisions voulaient dénoncer les accords. Or, nous, on a besoin de ces accords, à la fois pour la notoriété et aussi pour des raisons financières. Donc, nous sommes très, très vigilants. La villa est entourée de policiers qui font des rondes. On leur confisque leur téléphone pour toute la journée, parce qu'ils sont enfermés là toute la journée, alors que les délibérations se terminent à 13h. Elles se terminent pourquoi ? C'est qu'il faut prévenir les gens qui sont repartis de Cannes, que ce soit à Paris, à Londres ou à Rome. En Amérique, c'est pas possible à cause du décalage horaire et du temps qu'il faudrait pour revenir. Ils ne peuvent pas revenir. Mais on essaye de faire rester le maximum de gens dans la ville. Et donc, pour ces raisons-là, on commence très tôt. On commence à 9h, rendu sur place, démarrage. Et là, les délibérations commencent, c'est très laborieux. Est-ce qu'on fait film par film ? Est-ce qu'on essaye de grouper 5 ou 6 films et ensuite on verra à quel prix on leur donne ? Ça dépend des jurys, ça dépend beaucoup des présidents de jury qui ont évidemment une énorme influence. D'abord parce que c'est des gens très respectables. Quand vous avez Coppola président de jury, ça paraît très difficile de lui dire « Monsieur, vous ne connaissez rien au cinéma ». Du reste, il s'est montré extrêmement démocratique, écoutant tout le monde, etc. Donc ça prend beaucoup de temps, on donne la parole à chacun, de temps en temps les esprits s'échauffent, ça discute, on demande un arrêt, il y a des petits conciliabules, et puis on vote. On vote avec un seau de champagne qui sert à déposer une urne, si vous voulez, pour déposer les bulletins. Ensuite, on les dépouille, c'est le président du festival qui les dépouille. Alors, le président assiste en même temps que le délégué général, le directeur, non pas pour se mêler et pour intervenir, quoi qu'ils en aient très envie, bien sûr, parce que même ils ont quand même le savoir des films qu'il faudrait primer, mais ils interviennent pour s'il fallait faire un rappel au règlement, si on décidait d'accorder plus de prix qui ne sont attribués, si on faisait trop d'exécours, enfin, il y a 1000 raisons, mais pour le reste du temps, on reste silencieux, on n'en pense pas moins, et ensuite on leur dira ce qu'on pense. Ça, c'est la petite vengeance d'après délibération. Donc, ils délibèrent comme ça jusque vers 13h, au fur et à mesure que les prix sont annoncés et décidés, et on ne pourra plus revenir dessus, on les communique aux intéressés dans le plus grand secret, sans leur dire de quel prix il s'agit. On leur dit simplement, vous devez revenir à Cannes, absolument. Alors ils font du chantage pour savoir quel prix, en disant, moi je ne reviens que si c'est un prix important, etc. Vous tenez bon, et ils reviennent quand même. Et à ce moment-là, vous avez à l'aéroport, à la gare, sur la route, etc., des gens qui se postent, des journalistes évidemment, pour savoir qui revient. Parce que s'il revient, c'est quand même qu'il y a quelque chose. Alors il y a aussi des gens qui sont restés à Cannes et qu'on cache dans les villas de l'arrière-pays. Donc, enfin, c'est tout un petit jeu de chat et de la souris pour essayer d'empêcher les gens qui s'amusent à ça, non seulement les journalistes, mais les distributeurs de films, les attachés de presse, qui communiquent entre eux le moindre renseignement. Et donc, à la fin des fins, certains arrivent à reconstituer à peu près ce que ça va être. Et puis, quand c'est fini, les délibérations, on déjeune tranquillement, on se relâche. Et à ce moment-là, il faut les tenir dans la villa. Et c'est très compliqué parce qu'ils ont envie de rentrer en ville, ils ont envie de rentrer, de faire les choses et l'autre. Et là, nous n'acceptons pas. on les tient prisonniers, alors on essaye de gagner du temps, la sieste, un jeu de cartes, on leur rend pas leur téléphone, ce qui provoque des énervements, et puis on leur dit, mais attendez, vous allez voir, à la fin, ça va être extraordinaire, et vers 5 heures, d'abord, il faut qu'ils s'habillent, en tenue de soirée, et là, il y avait deux salles de bain pour 10 personnes, donc ça prend un certain temps. Et puis, il y a un convoi qui se forme, et là, on avait demandé à la ville d'avoir des motards. Et alors là, évidemment, pour les étrangers, un transfert des Hauts-de-Cannes au palais avec une arrivée triomphale avec des motards, on a l'impression d'être chef d'État, secrétaire général de l'ONU. Par conséquent, tout d'un coup, la bonne humeur revient, ils sont rassérénés, et là, on les stocke à nouveau, dans le nouveau bureau du président du festival, en attendant d'aller dans la coulisse pour ensuite venir sur la scène présenter les films comme chacun le sait s'il a vu le palmarès du Festival de Cannes. Et voilà.
Et le festival atteint son apogée avec l'annonce des prix. La Palme d'Or, Gilles Jacob, fait rêver tous les cinéastes. C'est le Graal.
La Palme d'Or, c'est évidemment le prix du monde entier avec les Oscars qui compte le plus pour n'importe quel cinéaste. Si vous n'avez pas eu la Palme d'Or, si vous êtes un grand cinéaste, c'est presque une injustice. C'est dans cet esprit que, par exemple, Ingmar Bergman, le maître suédois, qui n'avait jamais eu la Palme d'Or, alors qu'il aurait pu l'avoir 10 fois, a été récompensé une année par la Palme des Palmes. On avait décidé de faire voter toutes les Palmes d'Or en exercice et de venir à Cannes pour la remettre à, justement, une injustice, à un grand metteur en scène ne l'ayant jamais eu. Alors, ça aurait pu être, par exemple, Woody Allen, mais Woody Allen ayant toujours refusé d'être en compétition, il n'y avait pas de raison de lui donner un prix. C'était pas normal. Alors que Bergman était incontestablement un des gens les plus connus dans le monde et dans l'histoire du cinéma. Donc, c'est lui qui l'a eu. Mais pour revenir à la Palme d'Or proprement dite, ça n'a pas toujours été la Palme d'Or. Il y a d'abord eu, dans les débuts du festival, je vous parle des années fin 40, 50, 60, le Grand Prix du Festival de Cannes. Ça ne s'appelait pas la Palme d'Or, c'était le Grand Prix. Et d'ailleurs, ce qu'on remettait, c'était un tableau, une toile de maître de l'époque. Alors, il y avait des maîtres contemporains qui donnaient un tableau et les gens repartaient avec la peinture. Très bien. Et puis un beau jour, Favre Lebret, mon prédécesseur, a eu l'idée de faire un concours parmi des grands bijoutiers pour essayer de dessiner quelque chose. Alors on a cherché quel serait le symbole. Évidemment, le palmier à Cannes, sur la Côte d'Azur, ça s'imposait. Et c'est comme ça que la Palme d'Or est née. Elle a été attribuée quelques années. Ça s'est très bien passé. Le bijou était beau, il était en or, en tout cas doré. Et les gens partaient avec fou de bonheur. Et puis un jour, au conseil d'administration, on a dit non, c'est embêtant. Enfin, il y a eu des obstacles à ce que ce soit la Palme d'Or. Et pendant 5 ans, c'est redevenu le Grand Prix du Festival de Cannes dans les années 60-70. Puis un beau jour, on a arrêté tout ça, on a dit non, la Palme d'Or, c'est un symbole absolu. On revient à la Palme d'Or une fois pour toutes et on n'en a plus changé. Donc cette palme, quand vous rentrez dans le club des Palmes d'Or, vous devenez un cinéaste connu dans le monde entier. Par exemple, Tarantino, quand il l'a eu, m'a embrassé et il m'a dit « Tu me fais gagner 10 ans de notoriété. » Parce que partout où j'irai, j'ai qu'à dire « J'ai eu la Palme d'Or et je serai reçu à bras ouverts. » Et puis un beau jour, quelqu'un a eu une deuxième Palme d'Or. C'était Francis Coppola, qui avait eu la Palme d'Or dans 72 ou 73 avec Conversation secrète, et qui a eu la deuxième Palme d'Or en 79 avec Apocalypse Now. À partir de ce moment-là, on s'est dit, mais au fond, on a le droit, parce que une clause du règlement disait, à partir du moment où vous avez la Palme d'Or, ensuite vous êtes hors concours, vous pouvez pas avoir plus, vous avez tout gagné. Et puis, ça s'est fait, cette deuxième Palme d'Or, un miracle, et du coup, la clause du règlement a sauté. Alors, il y avait deux types de metteurs en scène. Ceux comme Fellini qui disaient « J'ai eu beaucoup de mal à avoir la Palme d'Or, je ne veux plus aller en concours, c'est trop risqué, c'est trop dangereux, ça va être un autre metteur en scène et je vais être humilié, je ne veux pas. » Puis d'autres qui disaient, comme Robert Altman, « Mais moi, je veux venir toujours en concours. Je vais gagner la Palme d'Or, je vais gagner la mise en scène, un prix d'interprétation, n'importe quoi, mais je vais gagner. Pourquoi ? Parce que je suis joueur et parce que surtout ça fait du bien à mon film. S'il a un prix, on va faire de la publicité là-dessus, il sera vendu dans le monde entier. C'est lui qui avait raison. Claude Lelouch, la même chose. Il est toujours venu à Cannes en voulant être en compétition. Et puis ce club des doubles palmes d'or est arrivé, et d'autres l'ont eu, Imamura, les frères Dardenne, d'autres que j'oublie. Et total, maintenant, vous avez 8 metteurs en scène qui ont eu la double palme d'or et qui ne pensent qu'à une chose, c'est à avoir la triple. Voilà l'histoire de la palme d'or.
Donc les palmes d'or ont été honorées au 50e anniversaire du festival. Est-ce que cette édition du festival était pour vous la plus inoubliable, Gilles Jacob ?
Oui, le 50e anniversaire a été une chose très difficile à réaliser parce qu'il faut beaucoup de moyens pour faire ce qu'on a fait. Alors qu'est-ce qu'on a fait ? On a fait une sélection normale, comme tous les ans. On a donc décerné la palme des palmes à Ingmar Bergman. Et là, la cérémonie a été extraordinaire. C'est Philippe de Coufflet, qui avait organisé les Jeux Olympiques d'hiver quelques années auparavant, qui avait été chargé d'imaginer le spectacle. Alors, il a créé un ballet pour cela. Ça a commencé par le ballet. Et ensuite, ça a été l'entrée en scène des 28 palmes d'or en exercice encore vivant, sauf Piala, qui avait dit oui, puis non, puis oui, puis qui finalement n'est pas venu, qui ensuite l'a beaucoup regretté. Mais sinon, ils étaient tous là, venus du monde entier, y compris les très âgés, comme Antonioni, comme Imamura, comme des gens comme ça. Et ils sont tous montés, l'un après l'autre, sur la scène, avec un drapeau de leur pays qui s'agitait et une musique correspondante. Et de Coufflet avait imaginé une chose géniale, c'est-à-dire qu'il avait à l'arrière de la scène installé d'immenses miroirs. C'est-à-dire qu'on voyait en même temps le photographe qui était dans la salle en train de photographier les 28 metteurs en scène en arc de cercle sur la scène, voyait en même temps l'image du public de toute l'orchestre qui se reflétait derrière. Jeanne Moreau était la directrice, la représentante du spectacle, elle a mené ça magnifiquement. Et quand l'hommage à Bergman est arrivé avec la remise de la palme, lui n'est pas venu, il était vieux, malade, il a envoyé sa fille, c'était encore plus émouvant. Et toutes les actrices de Bergman qui avaient été convoquées là, toutes ces magnifiques, belles actrices suédoises, ont descendu la salle en courant, sont montées sur la scène et ont entouré Liv Ullmann et sa fille qu'elle avait eue avec Bergman, Lynn Ullmann, qui a reçu le trophée. Et ça a été un souvenir magnifique.
Et à propos des applaudissements pour les palmes d'or, vous avez écrit « Par l'écho des miroirs, réverbérant ce banc collectif, une communion s'établit entre la scène et la salle. Ainsi, pour une fois, le public le plus blasé du monde » se laissa-t-il aller à des sentiments vrais parce qu'un tel spectacle était le fondement de sa propre vie? C'est magnifique.
Je peux rien ajouter.
Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre de Yorgos Archimandritis avec Gilles Jacob. À voix nue, réalisation Doria Zénine, prise de son Florent Layani, coordination Claire Poinsignon. À voix nue s'écoute en ligne et se podcast sur franceculture.fr.